Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 30e épisode de Torréfaction, votre rendez-vous hebdomadaire avec notre sélection d'actu. Salut Kef.
Ça va Pascal?
Ah, écoute, ça va, bonne pêche cette semaine, je sais pas pourquoi.
Patate de ouf. Ça va pas durer.
Oh, je me fais pas d'illusions non plus. On a un gros sommaire cette semaine, donc on va y aller tout de suite et on va commencer par le gaming et on va parler d'un concurrent de nos amis de PUBG, un ancêtre de PUBG plutôt.
Mais oui, c'est le grand-père, c'est H1Z1
ouais.
Qui essaye de survivre et c'est pas facile la vie pour lui, tu vois, non. Il souffre aussi et ils ont décidé de le coller gratos pendant une semaine parce que maintenant qu'ils sont pris en sandwich avec un certain Fortnite Battle Royale et évidemment PUBG qui éclate tout le monde, PUBG qui quand même réussit à faire top 5 des jeux Steam les plus joués avec sa version test actuellement, je trouve ça juste hallucinant. Du coup, ils tentent le mode gratos une semaine, vous allez voir, le moteur 3D est pas terrible, mais le gameplay est très différent. Donc si vous aimez bien l'idée mais que vous n'avez pas accroché aux deux BR qui sont actuellement à la mode, vous pouvez tenter celui-ci.
H1Z1, il y avait pas mal de streamers à l'époque avant que PUBG arrive, hein. On l'a un peu perdu de vue depuis, mais bon, voilà, c'est toujours actif, donc allez tester ça, moi je vais y aller aussi. Tu parlais de Fortnite, il y a des nouvelles de ce côté-là aussi?
Oui, grave. Alors, quand je dis eux, c'est évidemment Epic, le copieur.
Méchant.
Le copieur de PUBG. Non, là, ils sont partis dans une voie qui est vraiment la leur, entre guillemets.
D'accord.
Ce qui énerve quand même les mecs de PUBG, mais c'est un autre débat. Et du coup, ils se sont rappelés qu'ils voulaient faire de l'argent, parce que je vous rappelle que Fortnite, à la base, c'est un jeu de construction, machin zombie, qui n'a pas du tout marché. Ça fait 4 ou 5 ans qu'il est en développement, qu'il a changé 42 fois de direction niveau gameplay. Donc, dans la série, on se cherche, il se pose là. Et il est donc sauvé par la version Battle Royale, qui est un mode à la base de Fortnite qui est complètement différent et qui continue d'évoluer et qui cartonne, au cas où vous n'auriez pas vu le truc. Hein. Ouais. Ça se stream à gogo. C'est le jeu qui essaye d'être dans l'aspiration de PUBG. PUBG, ils en sont à 25 millions et quelques. Hein, donc, ils ont encore de la marge, hein, je vous rassure. Mais du coup, Epic, comme c'est un free-to-play, ils ont besoin de rentrer du fric. Et c'est parti. Donc, il y a un système de saison qui est évidemment complètement pipoté comme d'hab, hein. Comme tous les trucs de saison de free to play, ça me fait bien marrer. Bref, ils ont donc annoncé un Battle Pass pour la saison 2, comme c'est original. Battle Pass, c'est le principe qui a été inventé pour Dota 2 par Valve il y a déjà bien longtemps et qui donc va vous donner accès à plein de trucs cosmétiques, rien qui n'influence le gameplay, je vous rassure.
Bon, ça c'est bien.
Donc voilà, donc ça c'est pas mal. Il y a une tonne de trucs. Alors, le Battle Pass n'est pas du tout obligatoire évidemment, mais là ça vous permet de récupérer toutes ces saloperies en ne jouant pas. Donc en les débloquant avec vos brousoufs gagnés à la sueur de votre front, la grosse bonne nouvelle entre guillemets, c'est que contrairement à un certain Star Wars, si vous ne voulez pas dépenser d'argent, ça vous prendra 70 à 150 heures de jeu pour avoir tous les trucs gratos.
Ça va.
Alors, c'est franchement honnête, hein, mais par contre, faut pas mollir, parce que mine de rien, claquer pendant une saison les 150 heures de jeu, faut vraiment être scotché et mordu du truc. Mais si c'est votre cas et que vous voulez pas dépenser d'argent, voilà, c'est jouable. Je vous mets le lien avec toutes les nouveautés. Il y a plein de nouvelles armes, des skins pour Noël. Mais les mecs, on sent qu'il y a du monde qui bosse dessus. Ils rigolent pas avec ça. Hein.
Voilà, Fortnite, donc Battle Royale, encore un Battle Royale. On va changer radicalement de sphère. On va aller du côté des jeux de baston, puisqu'il y a une annonce le week-end dernier de Capcom qui a fait plaisir un peu à tout le monde, je pense. Ils annoncent un bundle des 30 ans pour les 30 ans de Street Fighter, hein, qui s'appellera le Street Fighter 30th Anniversary Collection.
Ouais.
On fait ce qu'on peut. donc, il y aura tous les épisodes de la saga pré-Street Fighter 4, hein, a priori pas tous, mais presque tous, on va dire. Donc, de l'original de 87 à Third Strike, donc 12 jeux, je crois, au total.
J'ai entendu les puristes déjà râler, mais je me rappelle même plus pourquoi.
Écoute, c'est déjà pas mal. 12 jeux, dont 4 SF2, SF2 Turbo, Alpha 3 et Third Strike, qui seront donc jouables en ligne.
Ouais, ça, d'ailleurs.
C'est plutôt cool.
Bah, en fait, ils ont mis le online sur les plus importants. Ils sont pas débiles. Donc ça, c'est la bonne nouvelle.
Ça devrait sortir en mai 2018 sur PS4, Xbox One, PC et Switch. Pas de prix, donc, comme je le disais. Pas d'infos non plus sur le côté, est-ce que ce seront des portages ou bien des émulations. Je pense que ce sera plutôt des émulations, hein, comme d'habitude,
ouais,
avec
comme
ce genre
de
trucs. Donc voilà, un petit bundle sympa à prévoir pour les 30 ans de Street Fighter l'année prochaine. On en reparlera, bien évidemment, quand on aura plus d'infos.
Et pendant ce temps-là, Street Fighter 5 continue de galérer. Désolé,
ouais.
Capcom.
Écoute, il va falloir faire des sous avec autre chose, du coup.
C'est ça.
On va parler de Titanfall 2, ça faisait longtemps.
Bah oui, alors, incroyable, il bouge encore. C'est une excellente nouvelle, parce que bon, on va pas se mentir, hein, c'est pas PUBG sur les serveurs multi, mais je trouve que c'est une excellente nouvelle qui continue de faire des updates. Alors, c'est pas des updates de folie, attention, ils rajoutent pas des milliards de trucs, mais il y a des nouvelles skins, des bidouilles sur des modes de jeu. Qu'est-ce que je veux dire par bidouille? C'est, ils prennent un mode de jeu, ils changent 2-3 règles, et go, ça fait un nouveau mode temporaire de jeu pour les mecs qui aiment bien des nouvelles expériences. C'est pas mal, genre des guns obligatoires, etc. Donc franchement, allez-y. Bah, si vous avez le jeu, c'est l'occasion de dépoussiérer le multi. Si vous n'avez pas le jeu, franchement, depuis le temps qu'on en parle, je vais insister, mais faites-vous plaisir pour les fêtes. Il y aura bien des promos, chopez-le. Le solo reste extraordinaire et il a pas pris une ride, donc go. Je sais plus quoi dire à ce niveau-là. Je suis obligé de faire le marketing pour EA pendant qu'ils essayent de vendre du Star Wars Battlefront 2 de merde.
Ah là là.
Donc voilà, il valait mieux miser sur Titanfall 2, les gars.
Et on va terminer cette section gaming avec une rapide petite news concernant Life is Strange.
Oui, alors ça sort sur iOS, incroyablement. Je l'avais pas du tout vu venir. C'est une excellente nouvelle, parce que je pense que c'est un jeu qui se prête bien à la plateforme mobile. Et en tout cas, si vous avez un iPad, essayez pas trop d'y jouer sur iPhone. Ça gâche un peu le truc, je pense.
Voilà, c'était un jeu d'aventure épisodique, donc développé par les Français de Dotnut, qui était sorti en 2015. Et ça a été un gros succès. Ça a été une des meilleures ventes Steam, ainsi que sur PS3 et PS4. Je vous résume l'histoire en deux mots, hein. Maxine Caulfield, donc une jeune photographe qui a le pouvoir de remonter dans le temps. Je vous en dis pas plus pour pas spoiler. La musique était plutôt cool, c'était signé du groupe français Sid Matters.
C'est vachement bien.
Voilà, moi j'ai pas trop accroché au jeu parce que bah voilà, l'histoire m'a pas parlé, mais je sais que j'ai un paquet de potes qui ont scotché dessus, et apparemment c'est vraiment vraiment pour le coup bien écrit.
Alors moi le problème c'est que le gameplay est un peu lent pour mon goût, mais je dois admettre que c'est un des jeux les mieux écrits que j'ai vu depuis très longtemps dans ce style-là. Donc voilà, moi je l'ai sur PS4, je suis en train de le faire, et du coup si vous ne l'avez pas du tout, le iOS pour les vacances, quand vous vous emmerdez chez dans la famille, parce que des fois ça arrive, hein, de faire des trucs qu'on n'a pas vraiment envie de faire pour Noël, et ben voilà, c'est l'occasion de vous trouver une occupation.
Et on passe du côté des apps avec Bear sur iOS.
Oui, alors Bear, l'ours.
C'est quoi Bear?
Qu'est-ce que c'est Bear? Bear?
Non, Bear. Beer. Si, ouais, Bear, moi, si tu veux dire beer, mais bon.
Non, mais voilà, mais ce qui me fait délirer, parce qu'en fait, à chaque fois, nous, en France, on sait pas trop bien faire la différence entre la bière et les ours. Donc, c'est hyper compliqué. Mais donc, c'est bien Bear, c'est bien un ours, et ça sert à prendre des notes à la base. C'est une application qui avait déjà fait un peu parler d'elle, parce qu'elle est extrêmement bien designée. C'est fait par un Italien qui fait un super boulot sur iOS et macOS avec cette application. Mais ça a depuis bien grandi, et on n'est plus vraiment dans l'application de prise de notes uniquement. C'est même maintenant un soft qui peut aller concurrencer des trucs d'écriture un peu haut de gamme comme Ulysse. Il n'y a pas autant de fonctions d'export, etc. Attention, restons calmes. Mais ça a vraiment sa place entre l'application Note Apple, par exemple, et un soft d'écriture au long cours. Et il avait surtout fait parler de lui, parce que c'est un des premiers softs Apple connus qui était passé en mode abonnement.
D'accord.
Donc, eux, tu payes 15 balles par an. Donc, 15 balles par an, ça reste raisonnable si on en a l'utilité. Hein. Faut pas déconner. Et qui vous permet d'activer des thèmes supplémentaires, mais surtout la synchronisation entre les différentes versions. Donc, du coup, vous écrivez un truc, c'est automatiquement sauvegardé dans CloudKit, qui est le cloud de chez Monsieur Apple, qui marche très très bien. Oubliez iCloud, mais en fait, celui-là, on n'y a pas accès. C'est uniquement les applications qui peuvent s'en servir. Mm-hmm. Bizarrement, il marche beaucoup mieux que le reste.
Alors.
Et du coup, ça va vous synchroniser tous vos textes. Et franchement, cette version pro, parce qu'ils appellent ça la version pro, est complètement rentable si vous cherchez une application de prise de notes, d'écriture, etc. en Markdown, qui est extrêmement jolie et du coup dispo sur iOS, macOS. Vous téléchargez gratuitement, vous testez, puisque du coup, vous n'avez pas du tout besoin de passer à la version pro si vous n'avez pas besoin de la synchro. Et si ça vous plaît, du coup, vous pouvez passer à la caisse.
Bear, donc, et pas Beer. Et puis le jour, on aura une application qui s'appelle Beer, on vous en parlera aussi.
J'en ai, je te jure. La semaine prochaine, on va faire ça.
Je voulais passer en vitesse sur une petite info que j'ai mentionnée cette semaine sur le site. Il y a un client SSH qui est disponible donc dans Windows.
Yes.
Depuis la Fall Creators Update. Alors, comme d'habitude, avec Microsoft, c'est simple, mais il faut chercher un peu pour trouver où l'activer. Donc, je vous ai fait un petit récap sur GZ, vous irez voir ça, pour activer donc le client SSH natif en ligne de commande dans Windows enfin, j'ai envie de dire, ça faisait un petit moment qu'on l'attendait.
Pas du tout. Je ne vois pas de quoi tu parles. J'en avais ras le bol d'installer Putty. Enfin, moi, je m'en fous, je faisais ça sur Mac, mais quand tu le fais sur Mac et que tu t'aperçois que Windows n'a pas de SSH, déjà, tu fais genre, what? Pourquoi? Ouais.
La seule solution jusqu'ici, c'était d'installer la sous-couche Linux qui est en disponible depuis Windows 10, mais c'était un bordel sans nom. Ouais, c'était pas tout à fait stable encore, donc voilà. Bref, c'est disponible en natif et je vous indique comment procéder. Et on va finir cette section apps avec des news de Firefox.
Ouais, Firefox Focus, qui donc une version qui n'a rien à voir avec la version Quantum dont tout le monde parle, y compris nous, depuis sa sortie, qui est une excellente nouvelle, hein, installez-le, c'est très bien. Mais Firefox Focus, c'est la version anti-tout, par défaut, anti-pub, anti-tracking, version vie privée au max, etc. Donc c'est pour moi un soft intéressant à installer, surtout sur Android, où on n'a pas forcément de bloqueur de contenu facilement disponible. Ça vient se poser en concurrent de Ghostery, qui a un navigateur du genre déjà disponible sur iOS et Android aussi. Donc voilà, c'est cette nouvelle version 4.0, qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apporte l'autocomplétion des sites web de votre choix, c'est vous qui les enregistrez, il va pas le faire pour vous, c'est le but, on veut pas qu'il se rappelle de quoi que ce soit ce navigateur, donc ça fonctionne dans le sens inverse, c'est vous qui allez enregistrer les sites que vous visitez sans arrêt, genre Geekzone, au hasard, tu tapes GGE, bim, il va compléter directement. Il y a plein de petites nouveautés comme ça, vous l'installez, c'est gratos, vous verrez, c'est un navigateur qui, à mon avis, peut avoir un usage intéressant sur les téléphones des gens qui ont des travails un petit peu, comment dirais-je, compliqués.
Secret,
ouais. Secret, compliqué. Ou qui vont sur des sites bizarres. Mais ça, c'est votre problème.
On va embrayer directement sur la culture, enfin culture slash business, on vous en avait déjà parlé, je sais plus si c'était la semaine dernière ou il y a deux semaines, mais il y avait une rumeur de deal entre Disney et la Fox, et ben ça y est, c'est fait, hein. Disney a racheté pour 52,4 milliards d'assets de la 20th Century Fox. Wow. Il y a un communiqué de presse officiel qui, bien évidemment, fait met l'emphase sur le fait de ramener sous le même toit tous les héros Marvel, on sait que c'était le truc qui était bien observé ces derniers jours avec la rumeur. Encore difficile de savoir pour le moment ce que ça voudra dire pour le MCU, qui est un sujet qui nous intéresse. On attend une réaction officielle de Marvel Studios à ce sujet-là pour espérer y voir un petit peu plus clair. Effectivement, ça peut impliquer le retour des X-Men et des Fantastic Four dans le MCU, mais pour le moment, on n'a pas vraiment de confirmation. C'est ce qu'ils expliquent dans le communiqué de presse, hein, que c'est l'occasion donc de mettre tout le monde dans la même escarcelle, mais on ne sait pas si ça voudra dire une intégration dans le MCU ou pas. On en saura sans doute plus dans les jours qui viennent. Pour le reste, bah, c'est un gros deal.
C'est clair.
Qui voit Disney quand même choper une grosse manne de la production ciné, télé et du streaming aussi, parce que là, l'air de rien, maintenant, il possède 60% de Hulu, on sait jamais comment
Hulu. On dit. Chez nous, on va dire Hulu, il y en a marre.
ce qui est plutôt inquiétant quand même, hein, mainmise de Disney. On sait que Disney s'apprête à lancer son propre service de streaming. Est-ce que ça serait dans les cartons de racheter complètement Hulu, les 30% qui restent à peu près, enfin, il y a 30% qui appartiennent à Comcast, et on sait que Comcast n'est pas prêt de lâcher l'affaire, surtout qu'ils viennent de se faire rafler la Fox sous leur nez, donc ils sont probablement pas très très contents.
Ouais.
Donc c'est encore assez brumeux de ce côté-là. Quelques autres news concernant ce rachat, Disney récupère les droits complets sur épisode 4 de Star Wars.
Bim.
Jusqu'ici, ils avaient plus les droits de distribution, ce qui posait un problème pour faire des Blu-ray collector avec plein de versions d'époque. Ça va changer aussi.
Je sais même pas comment les mecs ont pu faire un deal pareil à l'époque, mais bref.
Je ne sais pas. Et du coup, ils chopent aussi au passage la franchise Avatar, qui reste quand même le film le plus rentable de tous les temps, près de 3 milliards de dollars au box-office, c'est le double d'un film Avengers. Et il y en a 3 qui arrivent là, donc je pense que voilà, je suis pas inquiet pour les finances de Disney dans les années qui viennent. En revanche, ça commence à faire un petit peu un gros conglomérat de tout en un seul, en une seule entité, et ça c'est jamais une bonne nouvelle, on va dire.
Bon, tu sais, je veux dire, il y a quoi, ils sont 5 maintenant, c'est ça?
Je sais pas.
À tout maîtriser, enfin, ouais. ça va être bonne ambiance. Je pense que ça va bien se passer. Du coup, d'ailleurs, il faut quand même préciser que le rachat est toujours sujet à un examen de la commission, ouais. Justement, anti-ça. Comment il s'appelle déjà? J'ai oublié le nom.
J'ai le anti-concurrence. Hein.
Anti-concurrence.
On va dire ça.
Ouais, allez, non, enfin, c'est pas ça. Non.
Anti-monopole.
Anti-monopole, ouais. Et je pense que ça va être rigolo. Je pense qu'il va y avoir du lobbying, etc. Et on a une petite pensée pour les salariés de la Fox aussi.
Ouais, qui doivent avoir très très chaud en ce moment. Bah, justement, la commission anti-monopole, elle va regarder de très très près ce deal Hulu, justement, dont je parlais, qui est un des trucs un peu tendu du slip dans ce deal, on va dire. On va passer du côté de la tech et on va parler de nos amis de Patreon qui ont retourné leur veste deux fois cette semaine, enfin,
oui.
ces derniers jours.
très très vite et en se mettant avec un genou à terre pour se faire pardonner. Je résume vite fait. En gros, ils avaient décidé, Patreon, c'est le truc qu'on utilise sur Geekzone, auquel il faut que vous donniez des sous d'ailleurs,
voilà,
pour financer le site et qui donc sert à financer les travaux de plein de gens qui sont des indépendants. Il y a des graphistes, il y a des musiciens, il y a des gens qui font des sites web avec des podcasts, donc un peu de tout. Et ils avaient dit, oh là là, on a un système financier compliqué, les gens qu'on paye, ils doivent nous lâcher plein de thunes pour qu'on leur vire leur argent, etc. On va leur faire plaisir, on va leur donner 95% de la thune au lieu des, je sais plus combien c'est, 80% actuellement ou 85%. On va mettre la rétention à la source, c'est-à-dire au patron, aux gens qui donnent l'argent.
Ce qui part d'une bonne idée, effectivement, puis ça voilà, va rassurer les actionnaires aussi.
Voilà, sauf que c'est donc une extraordinaire fausse bonne idée, puisqu'il y a plein de gens qui donnent relativement peu sur Patreon, donc ouais, 1 dollar, 2 dollars. Et dans les frais fixes, il y avait 35 cents, en plus d'un petit pourcentage de la somme. Donc, ce qui fait que les gens qui voulaient donner 1 dollar se retrouvaient obligés de donner 2 dollars quasiment. J'exagère, mais c'est pour simplifier le tableau. Évidemment, ça a gueulé partout. La problématique de base étant que plein de patrons se sont dit « Vous êtes mignons les mecs, mais je vais arrêter de donner des sous ». Et plein de gars qui avaient plein de gens qui donnaient 1 balle, 2 balles se sont retrouvés avec une désinscription en masse de leur Patreon, ce qui n'était pas le but ni de Patreon ni des artistes qui en plus eux n'avaient rien demandé. Du coup, il y a eu, comment dirais-je, un gros bordel tout médiatique dans tous les sens. Et puis on rappelle que Jack Kante, qui est le patron de la boîte, et lui-même musicien, a plein de potes artistes. Du coup, gros coup de téléphone dans tous les sens pendant des heures. Résultat des courses, le mec a dit « Bon, là, on a vraiment merdé. On a merdé sur l'idée et sur la façon de l'amener, puisqu'il n'y a pas eu de consultation, c'est tombé comme ça. » Et du coup, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on ne va rien faire. Donc, on va commencer par ça. Il faut qu'ils changent leur système financier, parce que pour l'instant, il est compliqué et tout le monde paye trop cher. Mais du coup, ils vont le remettre à plat et trouver une autre solution. Donc, pour l'instant, c'est balle au centre. Mais comme quoi, les mecs, quand vous avez une bonne idée, vérifiez qu'elle est vraiment bonne avant de la balancer à tout le monde.
Ouais, parce qu'il y a eu une désertion assez rapide et massive en fait. Hein. C'est vraiment ça qui les a forcés à réagir, je pense que c'est...
Bon, puis ils ont eu une mauvaise presse en termes de marketing, c'était ingérable, ils n'avaient pas le choix.
Bref, Patreon donc, rien ne change finalement et c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous et pour vous aussi en fait.
Pour l'instant.
On va parler de copie d'iPhone X, ça y est, ça commence.
Alors là, je rigole beaucoup, parce que donc le notch de l'iPhone X, que tout le monde déteste, que tout le monde se fout, que les gens aiment, alors voilà, maintenant ça commence à avoir de tout. Ça, je vous rappelle, le notch, elle est un l'encoche carreau de l'iPhone X, qui héberge tout le système de caméra pour Face ID avec il y a plein de matos, plus évidemment la bonne vieille caméra de base pour faire vos selfies adorées. Et du coup, ce truc là, c'est ce qui différencie l'iPhone X, c'est-à-dire que vous envoyez un 5 mètres, vous savez tout de suite que c'est un iPhone X, alors que tous les autres téléphones se ressemblent vu qu'ils ont tous les mêmes écrans. Et donc ça, c'est fini. C'est fini parce qu'il y a déjà une petite boîte chinoise qui s'appelle LIGO. Quel hasard.
Ça alors.
LIGO, je sais pas comment on prononce, hein, c'est L-E-A-G-O-O.
LIGO.
LIGO.
J'ai envie de dire LIGO, moi.
Ouais, c'est, enfin bon, bref, ça sort des, c'est les spécialistes des téléphones pas chers, un peu pourris. Et donc, eux, ils vont balancer en 2018 le S9. Et le S9, il a exactement la gueule de l'iPhone X. Même l'appareil photo au dos est un double objectif vertical, comme l'iPhone X. Les mecs en ont rien à foutre. Je veux dire, le respect, ils l'ont rangé loin dans une boîte, ils l'ont foutu à la mer. Et bon, par contre, on trouve à l'intérieur du mid-range, il y a 6Go de RAM, 128Go de storage, mais on est sur un téléphone tout ce qu'il y a de plus classique et pas extraordinaire, qui sera vendu sous les 300 balles, comme était vendu le S8, qui était une copie de, je vous le donne en mille, du S8 de Samsung. Parce que chaque année, tu vois, on copie le truc à la mode. Non, les mecs sont rigolos parce que vraiment, ils en ont rien à foutre. Je reçois les communiqués de presse de cette boîte, donc à chaque fois, je rigole. Je vous en parle pas parce que déjà, c'est quasiment introuvable chez nous. Mais en plus, c'est un peu de la merde et puis il faut pas que ça tombe en panne parce que bon courage pour le faire réparer. Donc voilà. En revanche, si vous voulez vous marrer et offrir un iPhone X, je fais mes Zergai guillemets.
Votre grand-mère qui n'y verra que du feu.
Voilà. Eh ben, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le trouver, à mon avis, sur tous les shops chinois classiques.
On va parler de Twitter qui a encore fait des changements.
Ah, mais alors là, quelle surprise. Ouais. Dites donc, Twitter, vous en auriez pas marre de vous réaliser, après tout le monde, qu'un truc est populaire, et de l'intégrer dans votre machin. Donc là, cette fois, ce sont les threads, les fils de discussion où on se répond à soi-même pour créer des trucs lisibles à peu près, qui vont être gérés nativement dans l'application et sur le site web, dans l'application officielle et sur le site web. J'ai envie de dire merci les mecs, ça fait juste 6 mois qu'on peut le faire avec tous les clients un peu sympas, genre Tweetbot ou Twitterific, sur iOS. Alors c'est même rajouté sur les clients Android sur certains. Je dis, il était peut-être temps qu'effectivement qu'ils s'en rendent compte.
Bah écoute, pour une fois, ils prennent une bonne décision, on va dire. Ils n'ont pas imposé des trucs qui allaient à contresens de toutes les utilisations des gens. Donc
exactement.
Là, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ils s'adaptent enfin un peu à l'usage de leurs propres clients.
Voilà, alors est-ce qu'on va pouvoir... Comment ça marche ? Vous allez pouvoir taper votre tweet, cliquer sur le petit plus en bas de la case où vous tapez votre texte. Ça va rajouter une boîte et puis tout envoyer d'un coup quand vous aurez terminé de votre prose. Et puis après, vous vous rappellerez qu'en fait, il y avait un truc qui s'appelait WordPress et les blogs. Et vous pourriez écrire des vrais textes dans des vrais sites web et on se ferait pas chier à vous lire. Et franchement, ça nous ferait bien plaisir.
Tellement, ah là là. Du côté de l'iMac, des nouvelles aussi surprenantes, un iMac Pro annoncé.
Ouais, alors là j'en ai parlé un petit peu sur Geekzone cette semaine aussi. L'iMac Pro, c'est un truc qui avait été annoncé au mois de juin, hein. Ça vient se positionner un peu bizarrement dans la gamme Apple parce que le Mac Pro n'a pas été vraiment upgradé depuis 1000 ans. L'iMac, c'est une machine grand public par excellence. Et là, donc, il balance un tout en un qui vous coûte vos deux reins, vos rétines et un morceau de votre bras et de votre foie. Parce que là, c'est le rein ne suffira pas, les mecs, je vous préviens tout de suite. Qui est une machine vraiment pro, c'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout destinée aux gens qui ont besoin justement de vendre leurs reins pour acheter ça. Qui est impressionnante dans la mesure où, alors le tarif d'entrée, c'est 4 000 €. Donc, on se doute bien que ce prix... il va falloir en mettre un peu dedans, quoi. Et on est sur une machine qui est complètement destinée aux professionnels de la vidéo, du son et du gros son, hein. Des gens qui font des économies, en gros, quand tout va plus vite, y compris extraire Bonsai, je crois qu'on dit, Fasquille.
Bonsai, oui, tout à fait.
Bonsai, c'est track, tu vois. Donc,
monsieur est connaisseur. Hein.
Attends, ça m'a fait marrer, tu sais pourquoi ? Parce que c'est le truc qui est dans le communiqué de presse officiel d'Apple. Mm-hmm. Et du coup, ils ont été obligés de mettre entre parenthèses extraire, exporter. Je crois que c'est exporter qu'ils ont mis parce qu'ils se sont bien doutés que les 3/4 des gens ne savaient pas ce que c'était, ce qui me fait beaucoup rire en fait. Mais du coup voilà, on est devant une bestiole qui est déjà un petit peu différente physiquement des autres puisqu'elle est gris sidéral, ce qui n'est pas une couleur qui est disponible sur les iMac classiques. Elle est gris sidéral partout, c'est-à-dire le clavier, la souris, le trackpad qui sont achetables en option sont tous de la même couleur.
Les câbles.
Même les câbles USB sont noirs avec comble du détail qui me fait bien marrer. C'est le truc qui entoure les petits pins là où il y a les connecteurs en fait, mm-hmm. C'est le blanc sur tous les câbles USB de la Terre. Et ben là non, ils sont noirs. Voilà, ça vient signifier jusque là la science du détail. Les premiers tests des mecs qui ont eu la chance de tester la chose dès le départ sont hyper contents de la puissance de la bête. Et surtout, ça fait pas un bruit. Donc quand on a un Xeon 8 coeurs, 32 gigas de RAM, avec 1 Tera de SSD, un écran 5K et une carte vidéo avec 8 gigas de VRAM HBM2, ce qui est le truc le plus rapide du marché actuellement, on se dit que si ça fait en plus pas un bruit quand on est en train de monter ses vidéos, ça fait bien plaisir. Mais il faut un peu d'argent. Là, le truc est sorti hier et donc il est disponible sur le shop d'Apple. Vous pouvez vous faire plaisir. Je crois que en maxant tout, c'est-à-dire avec un Xeon à 18 coeurs, 128 gigas de RAM, 4 Tera de SSD, bam, 16 gigas sur la carte graphique, on arrive à, au prix d'une bonne petite bagnole, puisqu'on passe les 15 000 €, quoi. Je crois. C'est 14 000 $, je crois quasiment mais en euros, j'ai pas regardé combien ça faisait, je ne veux pas aller voir. Je vous rassure.
L'iMac Pro, donc on vous filera le lien pour aller consulter tout ça sur le papier qui accompagne ce podcast.
Exactement. Ah, j'ai juste une précision. Vrai Mac Pro est toujours prévu pour l'année prochaine. Donc cette machine a un peu le cul entre deux chaises. On verra bien comment ça se positionne en 2018. Et toujours pas de news d'un nouveau Mac Mini. Merci Apple.
Et on va finir sur la guerre du stream.
Alors là, on est dans le nawak de grandes personnes, comme certains disent chez nos potes. Donc c'est la guerre, j'en ai un petit peu parlé dans des podcasts précédents, mais c'est vraiment la guerre officielle entre Amazon et Google. Donc pour résumer vite fait, Amazon refuse de vendre des Chromecast de Google et la gamme de produits Echo, vous savez, les petites boîtes avec lesquelles on peut discuter et qui vous écoutent tout le temps, puisque donc elles viennent se positionner en concurrent des trucs de chez Amazon, qui a exactement les mêmes choses dans son shop déjà. Et du coup, bah Amazon refuse que les Chromecast aient les services Amazon Vidéo, par exemple. Et Google a dit, bah, puisque c'est comme ça sur les Fire TV d'Amazon, on va enlever YouTube. Déjà, ils avaient déjà pas mis Google Music et Google Movie, mais là, du coup, bah, ils retirent YouTube, qui est juste le truc, l'utilisation numéro un de plein de gens sur cette petite box. Donc, bah, ça se passe pas très bien. Puis les acheteurs sont en otage au milieu, ils ont rien demandé. Et ça sera effectif dès le 1er janvier 2018. Comme ça, la guerre est déclarée, c'est officiel. Donc, je pense que jusqu'à ce que ça se calme, il va falloir arrêter d'acheter ces petits trucs pas chers qui étaient pourtant bien pratiques pour plein de gens. Les deux modèles, les deux trucs les moins chers et les plus efficaces que vous puissiez acheter et où tout fonctionne, ça sera l'Apple TV et la Nvidia Shield. Donc, comme ça, vous avez côté Apple et côté Android, il n'y a pas de jaloux. Et là, au moins, vous avez toutes les applications de tout le monde et personne fait chier personne. C'est déjà pas mal, mais je ne sais pas combien de temps ça va durer s'ils sont capables de se tirer comme ça dans les pattes sans arrêt. Je trouve ça ridicule. Donc voilà, c'est des choses qui me rappellent un peu les heures sombres de Free avec YouTube. qui ne sont toujours pas réglés d'ailleurs.
Non, j'ai cru comprendre que ça continuait. Oui.
Mais c'est surtout que là, Free fait la guerre à Netflix, par exemple. Tu vois, donc
c'est malin ça.
Donc le streaming, c'est compliqué. D'ailleurs, je voulais tirer aussi sur Apple qui nous vend et survend son application TV, qui est censée regrouper toutes vos applications. Et sur le papier, c'est hyper intéressant, c'est-à-dire que vous avez un seul soft Apple avec un super design, etc., qui vient prendre tous les catalogues de vos différents services de stream pour vous dire, bah tiens, il y a ça qui est sorti, ça t'es en train de le regarder, etc. Ce qui est sur le concept juste génial, mais comme ça marche pas avec Netflix,
c'est embêtant.
Fin du game, j'ai envie de dire. Hein. Ça ne sert à rien. Ça fonctionne avec Amazon Vidéo, mais c'est extrêmement limité comme usage. Je vois pas. Enfin, l'intérêt du truc sans Netflix est nul. Donc voilà, merci Apple. Au revoir.
On va me dire oui, vous êtes un con. Vous allez jeter ça. Oui, je le jette parce que ça c'est honteux. C'est de la merde.
Et c'est l'heure du rant, et cette semaine, on va taper sur quoi, mon cher Kef?
On va taper sur un truc, j'ai même pas envie de taper, là, donne-moi mon pistolet à clous. On va y aller direct avec un petit splunch dans la nuque. Ah non, mais c'est horrible. Donc, on parle de la crypto-monnaie, et on parle pas de la crypto-monnaie en direct, on parle du crypto-jacking. Alors, le crypto-jacking, c'est quoi? C'est cette, méthode de je peux pas dire les mots réels dans un podcast, parce que, tu vois, ça va être mal poli.
De gros enfoirés.
Ouais, pas mal, ouais. Sinon, ça va faire bip, bip, bip. T'as autre chose à faire. Et du coup, c'est des gens qui mettent des scripts pour vous faire miner avec votre navigateur de la crypto-monnaie, hein, sans que vous le sachiez.
Évidemment.
Et donc, ça vous fait ramer votre bécane qui se met à souffler, tous les ventilos qui s'allument, tout ça, ça fait toujours très plaisir. Et le dernier rapport de AdGuard, qui est un excellent adblocker que je conseille sans arrêt, et qui donc fait des rapports de surveillance réguliers sur plein de trucs moches, et ben là, ils se sont fait plaisir. Et ils nous annoncent que le crypto-jacking est en vogue et de plus en plus pernicieux dans la mesure où les derniers fans de cette saloperie sont les sites de streaming de vidéos qui sont à peu près gratuits ou qui vous font croire que tout va bien, genre OpenLoad. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est OpenLoad, StreamMongo, Rapid Video et l'utilitaire qui ne sert à rien, n'allez pas sur ces sites de base qui s'appellent Online Video Converter. Tous ces trucs-là, en fait, vous font miner, sans que vous le sachiez, des monnaies à la con. C'est pas du Bitcoin, hein, c'est leur truc à eux. Mais ça leur permet de gagner du fric sans que vous soyez au courant. On atteint d'ailleurs, ils arrivent à arnaquer plein de gens parce que en fait, ces sites-là, surtout OpenLoad, sont intégrés dans d'autres sites. C'est-à-dire que si vous aimez, j'en sais rien moi, les animés sans payer... ou les shows coréens traduits et qui ne sont pas disponibles ailleurs, bon bah là ok, ça peut arriver, les mecs hébergent leurs vidéos traduites sur ce genre de site. Donc en fait la vidéo elle est embed sur OpenLoad, mais vous êtes sur un autre site, vous n'êtes pas au courant que vous êtes sur OpenLoad au moment où vous cliquez sur play, mais au moment où vous cliquez sur play, vous balancez le script qui va faire bosser votre bécane via votre navigateur. Donc c'est une belle saloperie et les trois quarts des adblocks ne sont pas capables de stopper cette merde. AdGuard a intégré ça maintenant partout sauf sur la version Firefox où il y a encore un problème, mais normalement ça devrait pas tarder. Et sur la version iOS, ils essayent de le bloquer par défaut. Mais normalement, ce qui se passe, c'est que vous avez une fenêtre, un pop-up par exemple sous Chrome ou sous Vivaldi, qui va vous dire, tiens, attention, ce connard de site essaye de faire un truc pas clair. Et donc, vous voulez ou vous voulez pas. Alors, si vous voulez, vous avez vraiment un problème de masochisme. Mais donc, vous allez cliquer sur vous voulez pas. C'est pour ça que je pense que la méthode de stoppage par défaut est la meilleure. Mais voilà, et ça, c'est un truc qui risque de continuer un moment dans la mesure où, bah, les crypto-monnaies rapportent beaucoup trop d'argent pour ce que c'est. Et du coup, bah, on est à la merci de ces malandrins. Oh, regarde, j'ai trouvé un mot mignon. Alors que j'ai juste des envies de pistolet à clou toujours.
Ouais, j'imagine. Je mettrai des bip bip s'il faut. Mais du coup, ouais, la seule vraie bonne méthode pour le moment, c'est de garder l'oreille attentive. Et si on entend son PC se mettre à tout à coup chauffer alors qu'on est sur un site web qui devrait pas.
C'est ça.
C'est qu'il se passe un truc pas cool.
Surveillez vos process et surtout, installez, bah, à minima AdGuard. Si vous utilisez autre chose que vous adorez, installez, regardez s'il y a une mise à jour qui prend en compte ces saloperies.
Et c'est la fin de ce 30e épisode de Torréfaction. Bah voilà, j'espère qu'on aura fait un tour intéressant de l'actu de la semaine. On avait d'autres choses à dire, non? Rien de spécial?
À la semaine prochaine. Voilà. Bon courage à tous si, comme moi, la semaine prochaine s'annonce absolument horrible. et puis, en plus, avec cette météo extraordinaire, moi, ça me fait bien plaisir.
Bah écoute, normalement, lundi, il y aurait un nouveau DLC, donc ça devrait peut-être rendre ta semaine un petit peu moins pénible.
Parfait, ça, pour les transports. Nickel. Continue voilà, comme ça. J'aime bien Geekzone, c'est pas mal.
Je sauverai Charlotte Pudlowski, donc ex-rédac chef de Slate et qui a lancé sa propre gamme de podcasts, donc je pense qu'on va avoir des choses à se dire. Ce sera donc normalement lundi ou mardi sur Geekzone, et puis nous on se retrouve vendredi prochain dès 9h comme chaque semaine. Bon week-end CAF.
Bon week-end FASC.
Ciao.
Un podcast signé FASCKILL. FASCKILL.com.
Je t'explique pas comment on parle dans un micro, j'imagine que tu sais.
Pas trop près, pas trop près, comme ça.
Là, comme ça c'est très bien.
Bon.
Chine.
La tienne.
Écoute, en tout cas, merci d'être venu. Hein,
c'est un plaisir. Hein.
Dans le canap, c'est votre rendez-vous mensuel sur Geekzone, un rendez-vous durant lequel FASCKILL s'entretient avec un invité, sans fil conducteur, sans questions préparées, mais avec des bières. Pendant environ une heure, posé au calme dans un confortable canapé, on y parle de son parcours, de son actu et parfois aussi du sens de la vie. Dans le canap alias DLC, c'est tous les mois exclusivement sur geekzone.fr.
En fait, il faudrait que tu sois ton invité un jour. Ce serait marrant, t'es que t'aies des gens proches de toi qui te connaissent bien, qui fassent la même chose. Les gens, ils kifferaient.